Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Oui, de retour sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est dans Estelle Midi, évidemment, avec Thibaut Texer, Pierre-Édouard Magnan, Fatima Benomar et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser, eh bien, à la fermeture du jour. C'est celle de plusieurs boulangeries dans le nord de la France. La raison, la flambée des prix de l'énergie. Et ces fermetures, Thibaut, risquent également de toucher d'autres secteurs.
Oui, une crise énergétique qui met en péril la santé financière des petits artisans. L'Union des entreprises de proximité s'alarme d'une hausse des coûts multipliés par 10 pour certains entrepreneurs comme les garagistes ou les boulangers, au-delà des petits artisans. 300 entreprises françaises menacent de ne pas passer l'hiver et de mettre la clé sous la porte, selon le ministre délégué de l'Industrie. Des entreprises très consommatrices d'électricité ou n'ayant pas réussi à renégocier leur contrat, suivi de près par Bercy, précise Roland Lescure. Duralex en est le parfait exemple, avec une facture énergétique de 2 millions d'euros l'an dernier. Elle est estimée à 13 millions d'euros en 2022. La société de Verri a donc décidé de mettre son four en veille à compter du mois de novembre. Ses salariés seront placés au chômage partiel. Pour lutter contre la crise énergétique, le MEDEF réclame un plafonnement des prix au niveau européen pour le gaz et l'électricité. En attendant une potentielle réponse de Bruxelles, l'exécutif précise qu'il existe un fonds d'appui visant à accompagner les entreprises dans le besoin. Les critères de cette aide devraient d'ailleurs être prolongés et allégés en 2023.
Alors l'État doit-il sortir son chéquier pour les petits artisans? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Oui, c'est prioritaire, même avant les particuliers.
Parce que
parce que les particuliers vont souffrir si disparaissent les boulangers, les garagistes. Vous savez, un boulanger dans un village, c'est quasiment un service public. Donc oui, c'est urgent. C'est avant tout, pour plusieurs raisons. De par le service au quotidien qu'il apporte aux usagers et de par la structure économique. C'est-à-dire que le premier employeur de France, ce sont les très petites entreprises et les moyennes entreprises. Très petites, c'est-à-dire qu'un boulanger, il a quoi? Il y a le boulanger, il y a la serveuse, le serveur, il y a un aide-pâtissier. Voilà, c'est des petites entreprises à 2, 3, 4 personnes comme ça qui créent l'emploi en France. Donc, s'ils disparaissent, c'est l'économie française qui risque de s'effondrer, en plus de ce que représente le maillage de services publics de ces commerces. Vous savez, dans un village, quand un commerce ferme, c'est un peu de la vie du village qui disparaît. Donc, oui.
Les clients qui sont pénalisés aussi,
oui. Mais oui, donc c'est pour ça. Je pense que c'est prioritaire, même avant les usagers, les particuliers, il faut aider les commerçants et les artisans.
Fatima, vous êtes d'accord avec ça? L'État s'est trompé en voulant aider uniquement les particuliers?
Alors, il faut faire attention parce que la clientèle de ces petits commerces, c'est quand même les usagers, c'est quand même les citoyens. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, il faudrait qu'un économiste nous éclaire.
Je vais dire les riches, je suis un peu étonnée. Ouais.
Il faudrait qu'un économiste nous dise jusqu'à quel point c'est conjoncturel ou si c'est structurel. Donc, si c'est vraiment l'inflation, les prix des matières premières et l'énergie, et donc le fait qu'ils puissent plus assumer notamment les factures de gaz et d'électricité, donc eux, ils n'ont que deux choix, ou bien répercuter ça sur les prix.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus paupériser les particuliers.
Bien sûr.
Ou alors ils mettent effectivement la clé sous la porte. Donc pour moi, qu'on les aide conjoncturellement, je pense que c'est effectivement primordial. C'est effectivement les commerces de proximité, c'est ce qui fait vivre et l'économie et la sociabilité, on va dire, sur notre territoire. Maintenant, le fait qu'ils puissent pas répercuter sur les prix de vente, c'est aussi lié au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, en gros, dans des quartiers très riches, que le boulanger augmente un peu le prix de la viennoiserie ou quoi, c'est pas ça qui va, ça va être assez bénin, hein, par rapport au pouvoir d'achat des personnes d'un quartier riche.
Ouais, mais le prix de la baguette, tout le monde le connaît. C'est-à-dire que si ta baguette, elle passe de 1 à 2 euros, ça va se voir quand même.
Bien sûr.
C'est pas pour ça que t'en achètes pas, mais en fait, tu vas le voir.
Je pense pas que ça aura un effet très malin dans des.
La France,
oui,
c'est pas
les quartiers riches.
C'est ce que je dis.
Les loyers sont plus élevés.
On est bien d'accord que c'est aussi une question de pouvoir d'achat et que si on avait accompagné, on va dire, tout simplement, le fait de réajuster les salaires et de préserver le pouvoir d'achat, c'est aussi un levier. Parce que si on sauve un système économique par le fait qu'il n'est plus viable pour ces petits commerces et que donc on leur donne des aides au-delà d'une crise conjoncturelle, là c'est qu'il y a un problème qui ne marche plus, c'est qu'il y a un gap entre les prix et entre les personnes qui sont censées consommer.
Est-ce que l'État doit aider en priorité, je pense, ces petits artisans, Pierre-Édouard Magnan?
Il doit aider, j'allais dire, tous les petits employeurs, évidemment, les commerçants, les artisans. Je veux dire, il faut aider mon plombier et mon boulanger.
Duralex, c'est un gros employeur.
Duralex, on n'est plus tout à fait dans le... Alors,
Après, et c'est une entreprise française, ça fait partie de notre
patrimoine. Après, il y a un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est par exemple un boulanger, de toute façon, le chômage partiel, c'est pas un outil pour lui.
Non.
Bah alors, Alex a encore un outil, je dis pas que la vie est belle, mais quand on commence à avoir une certaine taille, il y a aussi des outils qui existent. Typiquement, et je pense aussi par exemple au secteur associatif, qui contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'une bande de bénévoles qui font de la banque alimentaire. Grosso modo, le secteur de l'économie sociale et solidaire, dont le gros morceau sont les associations, c'est 10% de l'emploi en France.
Oui, bien sûr.
Alors, ça se voit pas parce que c'est complètement vaporisé. On pourrait parler de l'aide à domicile, hein, les aides à domicile en campagne qui passent leur temps à faire des tournées de voitures, avec des frais kilométriques, des associations qui touchent la PAC, qui s'adressent à des personnes dépendantes, qui sont aussi dans la même situation, c'est pas des commerçants dans la même situation. Il faut évidemment les aider parce que s'ils ferment, il y a d'abord une perte économique majeure en termes et de services et d'emplois. Et puis effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'un beau mot, mais c'est l'animation territoriale. Mais ce sont des gens qui font vivre, qui animent les territoires, notamment leur secteur rural, c'est le mien. Alors je suis évidemment le plus sensible, mais on pourrait parler de certains quartiers urbains. S'il n'y a plus un commerce dans les quartiers urbains, si c'est juste des lieux où on dort, où on travaille, c'est absolument épouvantable, avec même des conséquences en termes de sécurité.
Dans
sujet qu'on aime bien, exactement, mais on les transférerait partout en centre-ville. Donc, évidemment qu'il faut les aider, ou en tout cas, il faut créer des outils. Après, le sujet de fond, évidemment, il est comme d'habitude au-dessus. C'est la régulation des prix de l'énergie, c'est le découplage du prix du gaz et de l'électricité.
Enfin,
c'est des mesures de fond, parce qu'il y a un moment où, au demeurant, c'est bien que j'aime à dire qu'en même temps, un État, on s'en fout, il paye jamais ses dettes, il n'en paye que les intérêts. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'inflation, il y a à nouveau des intérêts quand les États empruntent. Donc,
nous, on est obligé de payer.
Il y a un sujet. Vous, si vous achetez votre maison, vous devez rembourser votre dette. Mais un État ne rembourse jamais le capital de sa dette.
Exactement.
Historique, jamais. Il ne paye que les intérêts. Alors, jusqu'à peu de temps, de toute façon, les intérêts étaient négatifs, tu fais gagner même de l'argent en emprunt. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il y a effectivement un sujet. Et comme à un moment, on parlait, c'est où on augmente les prix qu'on vend aux consommateurs, où on répercute en diminuant son activité. Un État, il y a un moment, c'est où il va augmenter les impôts, ou alors il va baisser la protection sociale et les redistributions. Ce qui est évidemment inaudible. Donc, effectivement, il va falloir aussi prendre des mesures européennes de plus grande envergure. Au-delà de la sortie du chéquier, même si ça me pose aucun cas de conscience.
Le boulanger qui va mettre la clé sous la porte dans une semaine, ça...
C'est pour ça que dans l'immédiat, l'État doit effectivement intervenir, parce qu'on ne peut pas fermer tous ces petits... Enfin, on ne peut pas les laisser fermer.
C'est ça.
On n'aura plus sinon que des grands groupes, on n'aura plus de services, il n'y aura plus de liens humains.
On va se plaindre qu'il y a trop de supermarchés, etc.
Mais on est d'accord.
On est avec Romain. Ça tombe bien parce que Romain, il est boulanger. Et il est boulanger à Lyon. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous n'avez pas mis la clé sous la porte, Romain, encore ?
Non, pas encore, pas du tout. Non, moi je voulais intervenir parce que, en fait, le prix de l'énergie, oui, c'est une chose. Ça fait monter les prix. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait, depuis tout temps, en fait, les prix des produits que nous, on vend, en fait, ne sont pas réels. En fait, on n'a jamais payé les heures supplémentaires ou les heures correctement des boulangers qui travaillent. Et en fait, tout ça, on ne peut pas les répercuter parce que, en fait, dans la psychologie des gens, acheter un croissant 2 euros, le vrai prix que ça devrait coûter, c'est pas possible.
C'est ce que je disais.
Et en gros, le prix de l'énergie, oui, c'est quelque chose. Mais en fait, les gens ont été habitués à acheter des choses à bas prix, sans payer, sans que, en fait, si on fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment, on parle qu'on ne trouve plus d'ouvriers, mais parce qu'on en a marre de ne pas être payé à notre juste valeur, parce que les gens ne veulent pas acheter le prix réel des produits, quoi.
Mais Romain, enfin, alors, grosso modo, une baguette aujourd'hui, c'est 1 euro, on est d'accord ?
C'est pas possible.
Et c'est ce que j'allais vous dire. Alors, normalement, une baguette, on devrait la payer combien ? Le juste prix d'une baguette, c'est combien, Romain ?
Ça devrait être au moins 1,60.
Ah ouais. Et vous la vendez combien, votre baguette ?
Nous, on la vend 1,60.
1,60 ? Ah, mais c'est pas mal. Parce que déjà...
Mais bon, il y a des gens qui le comprennent et on fait maintenant grâce au réseau et tout ça, on essaie d'éduquer les gens. Mais combien ne sont pas prêts à mettre ce prix-là dans une baguette ? Alors que c'est le prix réel. C'est long, c'est pénible, c'est la nuit. Il faut payer les gens en heure de nuit, ce qui est bien souvent n'est pas le cas, en fait. Et on fait des horaires, on est payé genre 39 heures alors qu'on en fait 50.
Mais vous, Romain, imaginons, là vous dites le prix d'une baguette, c'est 1,60. Ok. Si vous mettiez votre baguette à 2 euros, par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que vous auriez une grosse partie de votre clientèle qui n'achèterait pas de baguette chez vous ?
Je pense, oui.
Et vous en avez déjà parlé avec vos clients ?
Oui, déjà, oui.
Et vous, là, on voit quand même qu'il y a pas mal de boulangers qui ferment parce que, justement, il y a la flambée des prix de l'énergie. Donc, comme vous le disiez, si on peut pas mettre la baguette à 2 euros et qu'en fait, elle vous coûte 2,50 euros, bon, c'est évidemment un gros problème. Est-ce que vous, cette flambée des prix de l'énergie, vous l'avez ressentie ? Est-ce que vous avez une facture qui fait x2, x3 par rapport à l'année dernière ?
En fait, on a été assez intelligent parce que de base, on est une boulangerie bio et on était avec un fournisseur électrique bio. Enfin, bio, quoi, et l'énergie verte. Et on a changé tout de suite qu'on a entendu les problèmes de gaz avec EDF. Et en fait, on a eu un contrat juste avant la hausse des prix qui nous a permis de descendre un peu la facture. Mais on va avoir quand même une hausse.
Et là, en revanche, pour la fin de l'année, c'est, ça va pour vous, quoi. Vous dites pas, je vais remettre la clé sous la porte, quoi.
Non, on va pas se dire, on va mettre la clé sous la porte. Mmh. Mais voilà. Mais le problème, c'est que moi, ce que je dis, c'est que dans la mentalité des gens, les gens ont toujours été habitués à acheter des produits moins chers que ce que ça devait être, au détriment de ceux qui le faisaient. Donc déjà, en fait, je pense qu'il faut éduquer les gens à dire que, eh ben, en fait, le prix réel des choses, c'est ça. Et voilà. Et ça réglerait déjà beaucoup de choses.
Oui, certes. Moi, je comprends ce que vous dites. Et après, évidemment, qu'une baguette de boulangerie, elle est mille fois meilleure qu'une baguette de supermarché. Mais sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même plein de gens qui peuvent pas se permettre d'acheter une baguette 2 euros parce que ça fait, si vous prenez une baguette par jour, vous avez 3 enfants, 2 enfants. Bon, bah, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, c'est un budget de 60 euros et à un moment, c'est quasiment impossible. Et évidemment, bien sûr que le point de vue de Romain, il est compréhensible et il est juste, mais c'est impossible à faire, Fred Hermel.
Ouais, et puis c'est vrai. Et puis en plus, Romain disait 2 euros, il y a le côté psychologique. Ouais, voilà, 2 euros, tu dis 2 euros baguette, mais même quand t'es riche, t'as pas envie de l'acheter, quoi. C'est-à-dire que ça va.
C'est ça que t'as pas envie. Si
mais c'est une folie.
Je suis en train de me faire gruger.
Exactement. Je trouve le témoignage de Romain très intéressant. Je pense qu'en France, il manque d'éducation à la réalité des choses, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites en France ou pas chères. Notamment, on parle je digresse un peu, mais par exemple, quand on est à l'hôpital, il faudrait dire combien ça coûte réellement. On ne paye pas, et pourtant, ça coûte très cher. De payer le vrai. De dire le vrai prix de la baguette. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les boulangers ceux qui font la baguette à un 10 ou à un 20, en fait, ils se rattrapent avec les à côté, les gâteaux, etc.
Ouais,
parfois, ils vendent des sodas, des sandwichs, etc. Donc, il y a une manière d'équilibrer par rapport à ça. Mais j'aime beaucoup le témoignage de Romain. Expliquer aux Français que, voilà, il y a du travail derrière une baguette et qu'on ne paye pas le prix réel.
Vous avez des messages, hein, Thibault.
Oui, il y a Jérémy qui, lui, accuse la grande distribution, justement, pour revenir un peu dans ce débat, de casser les prix, de faire de la concurrence déloyale. Et donc, du coup, bah, les petits commerçants ne peuvent pas suivre face à ce cassage de prix.
Mais oui, c'est ça, parce que quand même, Pierre-Edouard Meunier, on passe notre temps à demander au supermarché de faire un effort en disant oui, c'est pas normal. Eux, ils ont fait des bénéfices incroyables pendant le Covid. Il faut qu'ils cassent les prix. Et en même temps, on nous dit, bah ouais, mais s'ils cassent les prix, bah, le boulanger de quartier, bah, il pourra pas vendre sa baguette 2 euros. Donc, on a l'impression qu'en fait, bah, c'est inextricable, quoi,
On est tout le temps dans les injonctions contradictoires, puisqu'on peut être en même temps un producteur, un travailleur et un consommateur, dont les intérêts ne sont pas, nécessairement effectivement cohérents. Mais je prenais l'exemple de l'hôpital, moi j'aime bien l'exemple de la pizza. Pourquoi on ne vend pas les pizzas 2 fois moins cher au lieu de nous dire systématiquement si vous en achetez une, on en offre une deuxième? Ce qui veut dire que donc on la paye au moins 2 fois trop cher.
Parce qu'on considère que tu manges jamais une pizza tout seul et que tu es toujours en groupe.
Oui, donc, mais il y a un rapport. Oui, mais dans ce cas-là, j'en achète 2, je l'aurai pour le même prix, mais il y a le côté, au lieu de me la faire vendre, en plus la pizza est un globalement un produit particulièrement rentable. Enfin, j'ai eu un ensemble d'émissions dessus, c'est un produit.
Moins que la crêpe, mais c'est pas mal, ouais.
Mais c'est quand même pas mal en rentabilité. Mais le système même a été conçu. Si vous en achetez une, on vous en offre une autre. Ça veut donc dire qu'en fait, si vous en achetez qu'une, on vous la vend au moins 2 fois le prix, même un peu plus, ce qui est d'ailleurs normal. Alors qu'on vous la vendrait, moi, avec ces prix, j'en achète 2, je l'aurais au même prix. Et ça m'a toujours marqué. Alors, j'entends bien la démarche marketing, etc. D'ailleurs, je pense que si on voulait faire d'éducation, il faudrait commencer par supprimer les gens qui font du marketing. Je taquine quand je dis ça, évidemment, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, après, repayer juste le prix. Après, on en revient aussi, c'est comment on répartit la richesse dans ce pays, parce que on pourrait aussi répartir la richesse un peu différemment dans ce pays, qui fait qu'on aurait les moyens d'acheter la baguette, ce qu'elle coûte au boulanger, de créer un système économique vertueux et non pas un système économique vicieux.
Mais vous préférez aller acheter la moins chère au supermarché.
Sauf que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est moins bonne. Tout le monde est globalement, s'il le peut, prêt à payer un peu plus cher pour avoir meilleur ou pour acheter du bio. Aujourd'hui, il y a un rapport à la proximité, au bio, à la qualité du produit. On n'est plus dans les années 80 ou 90. Il y a quand même une évolution, y compris chez les jeunes générations, mais pas que, sur qui sont des fois prêts effectivement à faire un peu plus de chemin ou à payer un peu plus. Après, évidemment, vraiment, faut en avoir. La réalité s'impose. Quand si on est au SMIC avec 2 enfants, il y a un moment, la réalité. On sait bien qu'elle est moins bonne au supermarché, mais elle est moins chère, et le moins cher l'emporte sur le moins bon.
Rapidement, Fatima.
Juste très rapidement, là, on est en train de dire depuis tout à l'heure qu'il faudrait payer le juste prix. À ce moment-là, le capitalisme s'effondrerait parce que, en général, on paye toujours un peu plus cher, parce que là, il nous a donné un contre-exemple, mais en général, on paye toujours un peu plus cher un produit, sinon, il n'est pas rentable. C'est-à-dire que la personne.
La marge.
Il faut quand même que la personne gagne sa vie, regarde.
La marge fait partie du juste prix.
Et les petits artisans, pareil.
Et il faut que le type qui fait la baguette puisse payer ses employés.
Exactement. Alors, on vous a posé la question, l'État doit-il sortir son chéquier pour les petits artisans, Thibaut Texer?
Oui, à 78%, là aussi, score sans appel, justement, pour aider ces artisans.
Oui.
Oui, voilà.